Je reprends mon texte. Depuis les Blue Books anglais jusqu'au roman d'Anne Rice, et ceci dit, il faudrait nuancer parce que les dernières 20 ou 30 années ont modifié considérablement la donne, je crois, à la littérature fondée sur la représentation explicite de l'horreur et destinée à un large public a subi un discrédit d'autant plus complet que cette littérature a été souvent associée, on y revient, à la lecture et à l'écriture féminine. Dévolue d'office à la littérature industrielle, ses productions sont généralement, et plus souvent encore dans le domaine français qu'ailleurs, reléguées aux notes de bas de page des livres d'histoire. Il n'y a pas lieu de déplorer, non plus que de justifier cet oubli, me semble-t-il, mais plutôt de s'interroger sur les conditions socio-historiques qui y ont présidé. L'histoire est écrite par les vainqueurs, la littérature ne fait pas exception à cette règle. C'est pourquoi l'étude de la littérature ne peut faire, je crois, l'économie d'une analyse des processus de légitimation, en l'occurrence d'illégitimation, par lesquels tel genre, ou ce que je préfère appeler telle classe de texte, aborde l'épreuve du temps. Analyse qui ne se penchera pas sur la valeur culturelle avec tous les guillemets nécessaires, mais sur les modes de production et de régulation de cette valeur. Entendant par production ici, à la fois la production matérielle, la production symbolique de l'œuvre, sous les actions conjointes de l'auteur, de l'éditeur et d'autres médiateurs, ainsi que la production collective de l'idée même de littérature en tant que système de signes en perpétuelle réévaluation. Alors, s'agissant du roman frénétique de la Restauration, j'expliciterai un peu plus tard ce que j'entends par là, et plus largement du roman diffusé par les cabinets de lecture, on en a déjà un petit peu parlé, je me fie à la fameuse réflexion de Stendhal sur la distinction entre ce qu'il appelle la littérature pour femmes de chambre et la littérature pour les salons. Et en effet, Stendhal décomposait l'attribution de cette valeur romanesque en une série d'oppositions touchant au format, à l'éditeur, à la destination géographique et sociale de l'œuvre. Ce que Stendhal exprime, il conviendrait d'en expliciter les diverses dimensions et d'en découvrir les diverses implications. Ce que je ne ferai donc qu'ici, c'est de m'intéresser à l'illégitimation dont ont été victimes les auteurs, en l'occurrence plutôt les autrices, de romans frénétiques. Alors qu'est-ce que c'est ? Comme souvent à l'époque romantique, la délimitation générique est délicate, on en a parlé, arrivée à maturité sous la Restauration, donc les années 1815-1830, mais présent en fait sous des formes diverses depuis les histoires tragiques de Rosset au moins, le roman frénétique, appelé ainsi à la suite d'un article de Charles Naudier en 1821, mais en gros c'est à peu près la même histoire que le gothic novel anglais, se caractérise par un ensemble plus ou moins disparate de thèmes et de motifs, persécution, exécution capitale, cimetière, château, torture, sévices, vous comprendrez tout de suite l'intérêt de ce type de lecture, se caractérise également par une structure actantielle immuable, une victime, un protecteur, un scélérat, et par une inscription idéologique plutôt réactionnaire. Il résulte, ce roman frénétique, d'un réseau d'influences qui s'étend donc, d'abord et avant tout, du gothic novel d'Anne Radcliffe, de Louis de Mathurin, mais au roman baroque de Sade, au genre sombre de Baculard d'Arnaud et au mélodrame. Quelques titres caractéristiques pour vous donner une idée. Le château de Sombremare ou les deux fantômes de la comtesse de Nardouet, dont je ne saurais trop vous déconseiller la lecture. Le solitaire du vicomte d'Arlincourt, un best-seller du genre qui s'est vendu comme le Da Vinci Code pendant quelques années, mais effectivement au prix d'un certain nombre de magouilles de la part de son auteur. Les deux chefs de brigands ou le duc de Ferrara de, je l'appelle madame parce que je me souviens plus du pronom, madame Bournon Mallarmé, rien à voir, quand vous poseriez la question. S'y ajoutent donc des titres comme Jean Bogart de Charles Daudier ou Andisland de Victor Hugo, roman et écrivain qui ont tenté de tirer le frénétique vers le haut tout en tâchant d'ailleurs d'y échapper. Qui étaient vers 1820 les auteurs de ces romans frénétiques, hors donc quelques écrivains romantiques qui s'y sont risqués? Quelle position occupaient ces comtesses et ces barons, tout à fait négligés par l'histoire littéraire, dans le champ de production littéraire? Alors, deux remarques d'abord, en commençant. Un, il n'y a pas eu d'écrivains spécifiquement spécialisés dans ce type de roman. Ils se sont illustrés dans le roman moral, dans le roman sentimental, dans le roman historique, dans le genre troubadour, ceci témoignant donc de la porosité entre les sous-genres à cette époque-là. Nombreux sont ceux également qui ont été auteurs de mélodrames, comme Barthélemy Hadot, ou d'autres qui rédigeront des mémoires apocryphes aristocratiques. Donc, deuxième remarque, et corrélativement, l'intense polygraphie de ces écrivains ou écrivaines au sein de genres destinés au cabinet de lecture se double d'un confinement dans ce régime de production. Donc, ils produisent toutes sortes de romans, mais à l'intérieur de ce cadre-là. Ils ne publient d'ordinaire ni poésie, ni tragédie, ni études historiques, ne participent pas aux concours académiques, sont peu joués dans les grands théâtres, collaborent peu au quotidien et aux revues, ne figurent pas au sommaire des annales romantiques ou des keepsakes. En somme, ces producteurs de romans en série jouissent d'une liberté de mouvement, mais sans parvenir, et souvent sans chercher, à sortir de l'édition pour cabinet de lecture. Remarquable cas de violence symbolique, assumée autant que subie, il s'adapte au mode qu'il pense déceler tout en se maintenant dans un circuit relativement dévalorisé. Or, et c'est mon point principal, les auteurs de romans frénétiques en sont arrivés là, au terme de trajectoires qui présentent d'assez fortes similarités. Souvent issus de la génération de la Révolution, la comtesse de Brady née en 1782, le baron de la Motte-Langon en 86, vicomte d'Arlincourt en 89, etc. Quand ils n'appartiennent pas à une génération encore antérieure, ces romanciers n'appartiennent donc pas aux hommes et femmes de lettres issus de la moyenne bourgeoisie pour lesquels l'écriture est l'occasion d'une ascension sociale via la reconnaissance des académies ou l'entrée dans des grandes revues, comme c'est le cas des romantiques des premiers cénacles, Sainte-Beuve, Hugo, mais on pourrait citer quelqu'un comme Amable Tassu chez les femmes par exemple. En fait, et autant que l'on puisse en juger dans la mesure où les notices biographiques de l'époque sont en général écrites d'après les renseignements qui sont fournis par les auteurs eux-mêmes, et donc ils peuvent fournir à peu près n'importe quoi, donc étant donné ça, la chute tient lieu parmi eux d'expériences sociales communes. Ils ont subi, par suite de la Révolution, de la Restauration ou d'une situation familiale, selon les cas, une relégation sociale qui les a, d'une certaine manière, contraints à se livrer à cette littérature industrielle. Je prendrai deux cas, un homme et une femme. Celui d'abord d'Étienne Léon de Lamothe-Langon, celui-là même que Stendhal utilisait comme exemple de ses romans pour femmes de chambre. Alors quand on regarde un peu sa biographie, pour autant que l'on sache, son père n'était pas issu d'une vieille famille aristocratique, donc il n'y a pas de vicomte de Lamothe-Langon, tout ça est une invention, mais son père était membre du Parlement de Toulouse et a été exécuté sous la Terreur. Donc après avoir fait une carrière de fonctionnaire, le Lamothe-Langon en question est nommé à l'Académie des Jeux Floraux, donc on voit plutôt une trajectoire ascendante dans un premier temps. Et puis la chute de l'Empire entraîne brutalement la sienne, malgré des fréquents retournements de veste, hein, c'est le genre qui s'est révélé extrêmement royaliste vers 1815. Après. Malgré de fréquents retournements de veste, la carrière administrative prend fin, de sorte qu'il se trouve devant la nécessité de produire une littérature jugée lucrative. Et alors il se lance dans une production extraordinairement intensive de romans de tout genre. Romans historiques, sentimentaux, romans de chevalerie, de mœurs, ainsi qu'une bonne dizaine de ses romans frénétiques. Et puis donc des mémoires apocryphes, comme je vous le disais. Au total, pas loin de 1200 volumes, sous son nom ou sous une série de pseudonymes. Dans son cas, la carrière littéraire apparaît donc comme le palliatif d'une trajectoire professionnelle qui a connu un coup d'arrêt. Dans celui d'Agathe Pauline, comtesse de Brady, d'après donc l'autobiographie qu'elle fait paraître elle-même, le recours au roman se justifie par un revers de fortune, mais plutôt d'ordre familial. Ce qui n'est pas inintéressant, évidemment, en l'occurrence. Fille d'un capitaine de cavalerie, devenu financier par besoin, dit-elle, elle a été élevée dans le respect du travail et de la religion, je reprends ses dires. Mariée à 17 ans au comte de Brady, un noble corse, elle se retire dans son château et se met à écrire. Ses premiers essais reçoivent le soutien de la comtesse de Genlis, mais... elle n'aurait point, dit-elle, imaginé de faire imprimer ce qu'elle écrivait si elle n'eût perdu sa fortune. De dame châtelaine, elle devint femme auteur. Et le grand dictionnaire universel de Larousse ajoute « Elle cultiva la littérature pour y trouver des ressources que des revers de fortune lui rendaient nécessaires. » Dans les dictionnaires biographiques, le déclassement social est régulièrement invoqué pour justifier la tournure de la trajectoire littéraire. Par exemple, Paccard, nous dit la biographie Michaud, aurait dû entrer dans les ordres si la Révolution, par la suppression des communautés religieuses, ne l'avait jeté sur les routes de France, d'abord comme acteur, puis ne l'avait contraint à écrire, dit Michaud, des romans médiocres qu'il vendait à des librairies pour les besoins de sa nombreuse famille. Dans le même style, la comtesse de Nardouet, toujours d'après le GDU, a été abandonnée, enfin d'après Larousse en l'occurrence ici, a été abandonnée par sa famille par suite d'un mariage malheureux et a dû en conséquence, dit Larousse, lutter contre la misère. C'est alors que mettant à profit l'instruction solide qu'elle avait reçue et la vive imagination dont elle était douée, je cite toujours évidemment, elle a écrit une série de romans. Parmi ces romanciers et ces romancières, le mythe dominant est donc celui de l'aristocrate déchu. Nombreux sont ceux, à l'instar du vicomte d'Arlincourt, s'inventant en l'occurrence un vicomtat, qui arrange leur biographie, où se trouvent des pseudonymes à rallonge pour mieux feindre la noblesse. Et le bénéfice est double. D'abord, la posture du grand seigneur s'adapte mieux à une littérature de couvent et de château, en tout cas on peut l'imaginer. Et d'autre part, la dignité sociale originelle compense la relégation vécue à travers le recours à cette littérature industrielle. L'auteur pour cabinet de lecture peut arguer d'une vie antérieure dans laquelle il avait fréquenté des milieux sociaux plus valorisés avant sa chute, donc dont il n'est pas responsable. La relégation sociale des romanciers frénétiques s'accompagne d'un déclassement symbolique qu'elle vient redoubler. Rares sont ceux et celles qui ont pu pénétrer les circuits, je disais, de la légitimation, académie, commission ministérielle, pension royale ou autre. Ils ne parviennent même pas aux instances représentatives des écrivains qui se créent à peu près à ce moment-là. Société des auteurs et compositeurs dramatiques, société des gens de lettres dans les années 30. C'est qu'en réalité, le sort des romanciers frénétiques des deux sexes est globalement assimilable à celui des seules femmes auteurs. Le roman de la Restauration est réservé, au moins dans les représentations que l'on s'en fait, à un public de lectrices, de petite ou de moyenne extraction sociale. Néanmoins, l'emprise, supposée, des femmes sur la littérature romanesque, hors le roman historique, ne s'arrête pas au lectorat considéré comme privilégié. Au contraire, le commerce du roman semble être l'apanage des femmes à tous les niveaux, encore une fois en termes de représentation. L'éditeur Pigoreau, dont je parlais tout à l'heure, qui est une source extraordinaire pour la littérature populaire industrielle de la Restauration, Pigoreau écrit ceci, 1822, « Nous aspirons après le suffrage de nos correspondants, nous aspirons surtout après celui des dames », écrit-il. C'est avec elles, principalement, que sont établies notre correspondance et nos relations. Ce sont les dames, généralement, qui tiennent les cabinets de lecture. Ce qui, statistiquement, est relativement juste, pour autant qu'on sache, en ce qui concerne les tenanciers de cabinets de lecture, étaient fréquemment des femmes, mais on n'a pas de statistiques très précises. Dans le cas du roman frénétique, il y a eu incontestablement un effet de mode et de contagion dû au gothic novel, ostensiblement féminin, hein, avec des chefs de file comme Anne Radcliffe, Mary Shelley, quoique, on peut discuter, Clara Reeve, Charlotte Smith et d'autres. Que quantitativement, alors là je prends les sondages que Maurice Lévy dans son grand livre sur le gothic novel anglais avait pris, il parlait de 58% de récits d'horreur, faut voir, qui pouvaient être attribués à des femmes. Quoi qu'il en soit, l'opération d'attribution de cette littérature aux femmes, femmes de chambre et femmes auteurs, n'est pas neutre bien sûr. En France comme en Angleterre, la féminisation de la production romanesque sert couramment d'argument à tous ceux qui cherchent à fustiger l'augmentation depuis la Révolution de la population des écrivains dans leur ensemble, et le nivellement par le bas qui s'en est suivi. Alors, deux, trois exemples parmi mille. Un certain Bocuse, en 1823, en préface d'un roman, écrit ceci. « Les lingères, les couturières, les portières, même les cuisinières, oublient leur aune, leur aiguille, leur cordon, leur marmite, pour prendre la plume, se donner la sotte vanité de devenir auteur, et pour être payé du libraire accommodant par beaucoup d'éloges et 3 douzaines d'exemplaires. » Autre stéréotype à l'époque, c'est que les femmes ne vendent pas et qu'elles doivent acheter leur propre livre. Nathalie Grand et Christine Planté, pour le 18e et le 19e siècle, ont établi l'étroite liaison formée entre femmes et romans. Les femmes en sont les productrices, les médiatrices, les réceptrices et encore les protagonistes, puisque les romans ont souvent des intrigues amoureuses ou alors sont centrés sur la victime, c'est le cas dans le roman frénétique. En réalité, l'adéquation entre écriture et lecture féminine et le genre romanesque induit la relégation de l'une et de l'autre. En tant que lectrice, les femmes sont jugées condamnables parce qu'elles risquent de délaisser les tâches ménagères. En tant qu'écrivaine, elles disposent certes d'un accès facilité à la profession et de précédents plus ou moins glorieux, Stahl, Genlis, Tencin, Rigobini, mais leur parole littéraire est en général confinée à quelques domaines relevant d'une sorte de parole privée. L'élégie, la littérature pour enfants, pour adolescents, les recueils de contes, qui rend les femmes responsables de la transmission, c'est-à-dire de la reproduction des impératifs sociaux. Par exemple, la comtesse de Nardouet, dont je parlais tout à l'heure, à côté de ses romans de divers types, signe une petite bibliothèque portative de la jeunesse, 1825, et la comtesse de Brady, un « Du savoir-vivre en France au XIXe siècle », etc. Livre d'instruction. Dans tous les cas, la parole publique, via le théâtre, l'opuscule politique, le journalisme, en tout cas le journalisme en revue, leur est fréquemment refusés, de la même façon que les sous-genres poétiques les plus valorisés, comme l'ode ou l'épopée. À une attention soutenue pour la littérature écrite par des femmes, hein, je rappelle que la première biographie des femmes auteurs contemporaines françaises paraît en 1836, donc à cette attention soutenue se joint une entreprise systématique de définition restrictive des sphères dans lesquelles la femme auteur devrait entrer. Par exemple, dans l'avant-propos de la biographie des femmes auteurs, dont je viens de donner le titre, Alfred de Montferrand cite Victoire Barbois, qu'il désigne comme la doyenne de nos femmes poètes, et estime que, ceci, il n'y a pas à espérer pour elle ni académie, ni place, et que cela est peut-être sage, elle aurait tort de s'en plaindre. Charles Nodier, lui, dans l'introduction du même bouquin, dit se refuser à, je cite, « joindre sa faible voix au concert de panégyrique insidieux dont l'objet le plus clair est de tromper les femmes sur leur propre destination. » Usant de ce que Marie-Pierre Louis appelle le poison de la différence, Nodier exalte l'émulation qui rend les femmes aptes à présider avec succès à la première éducation des enfants, à exercer assidûment les brillantes facultés d'imagination plus vives et plus déliées que la nôtre, celle des hommes, bien sûr, d'une sensibilité plus délicate, plus fine, plus universelle. Bref, à allier, dit-il, les avantages physiques les plus séduisants aux avantages moraux les plus précieux pour mériter leur statut de muse. Et la muse est évidemment, c'est toujours la muse de quelqu'un d'autre. Du moment qu'elle se met à exercer la profession d'écrivain, qu'elle prend l'allure du bas bleu, la femme qui écrit se transforme en une sorte de monstre social, subissant le pire discrédit, parce que, de par son hybridité même, cet être insulte l'ordre social dans son ensemble. Tout et plus, tout au plus, ces créatures hors de caste, l'expression de Jules Janin, peuvent-elles invoquer à leur décharge la nécessité financière, on l'a vu. Écrire pour nourrir ses enfants apparaît comme un moindre mal chez celles qui ne peuvent pas solliciter, précisément par cause de leur confinement dans le roman, ceux qui ne peuvent pas solliciter de pension royale. En revanche, le soupçon d'enrichissement attirera sur la femme, auteur, les foudres de la critique. Prenons par exemple la notice consacrée à Elisabeth Guénard, baronne de Méret, dans la biographie Michaud. Dans les premières années de sa vie, dit Michaud, elle ne joua dans la société d'autre rôle que celui d'une femme instruite, spirituelle, et qui n'avait nullement la prétention de prendre rang parmi les auteurs. Hélas ! Entre 1699 et 1825, elle a coupablement trahi son état et l'a mis au jour plus de 110 ouvrages, 350 volumes, ce qui fait d'elle, dit-elle, la plus féconde de nos romancières. Son œuvre est dépourvue d'unité, selon lui. Romans d'imagination, romans historiques, compilations, anecdotes, mémoires contemporains, brochures politiques. Sa plume infatigable a traité tous les genres, dit encore Michaud. Et surtout, elle l'a fait avec une médiocrité qui ne préservera de l'oubli aucun de ses ouvrages. J'espère qu'on dira pas ça dans votre biographie ou la mienne. Qu'on n'attende pas de nous, poursuit le biographe anonyme, la fastidieuse énumération des livres dont chacun a fait pendant quelques mois le charme des grisettes et des laquais. Enfin, pour compléter le tableau, la productrice en série de romans éphémères et parfois orduriers, dit-il, n'a pas publié sous son nom tous ses livres, soit que ses libraires y trouvassent un moyen d'achalandage, soit qu'elle fût honteuse elle-même de sa triste fécondité. Tout au plus, je reprends la parole, tout au plus cette prostituée volontaire des lettres, dépourvue au surplus de sens des affaires, a pu vivre de sa plume parce que, vendant celle-ci à bas prix aux éditeurs, l'étonnante facilité, dit Michaud, de sa plume faisait compensation. Toutes les tares que réunit la femme auteur ravalée au rang de représentante privilégiée de la littérature industrielle se trouvent, je crois, dans ce portrait. Fécondité, rapidité d'exécution, faiblesse du style, manque d'unité dans l'œuvre, réaction immédiate au mode du moment, ambition mercantile, etc. L'illégitimation subie par les romanciers frénétiques, ramenée au statut social des romancières, touche donc à toutes les parties de leur être social. À une ambition littéraire vile, justifiable seulement par un passif chargé, il ou elle ajoute une aisance à la production en série d'œuvres médiocres. Biographie de contemporain, autobiographie, ne manquant jamais de faire l'addition, je vous disais, 1200 volumes pour La Motte Langon, 117 pour Bournon Mallarmé, etc. Au moins, dans le cas du roman frénétique, ne mettent-ils guère en péril les bonnes mœurs? Les histoires de revenants, de bandits, de victimes séquestrées exercent l'imagination des lectrices en mal d'émotions fortes, les détournent de leur tâche supposée, mais au moins ne leur pervertissent pas nécessairement l'esprit, dans la perception qu'on en a à l'époque. Ils assurent une fonction de divertissement que n'importe quel écrivain pourrait remplir, et que n'importe qui, d'après un discours doxique bien réglé, remplit en effet. Je vous remercie.